France Inter.
Hi, I'm Stella Lee, Executive Vice President of BYD. I feel big honor to receive this prestigious recognition.
Elle est vraiment contente, Stella Lee, de son prix de personnalité automobile de l'année. Ça, c'était en avril dernier. Elle est le visage du premier constructeur mondial de véhicules électriques, la présidente de BYD, Build Your Dreams, Construis tes rêves. Et cette semaine, elle vient d'inviter des journalistes de 250 médias et des influenceurs de la planète entière dans sa plus grande usine à Zhengzhou. Voici Stella Lee en combinaison de pilote, sortant de la voiture la plus rapide du monde, une sportive rutilante aux portières papillon. Puis voilà le premier SUV qui flotte, utile en cas de grosses inondations, dit BYD. Stella veut t'impressionner car en Chine, les ventes chutent, il faut conquérir de nouveaux marchés. Et par exemple, pour contourner les droits de douane européens, une usine BYD est en train de sortir de terre en Hongrie. Mais qui aurait parié il y a 20 ans que l'innovation automobile serait incarnée par une quinquagénaire chinoise au sourire perpétuel? En France, à la même époque, Louis Schweitzer, qui a disparu jeudi à 83 ans, quittait Renault et cette semaine, ses successeurs misent sur la renaissance d'un best-seller, la Twingo, version électrique, à moins de 20 000 euros. Pour innover, pour réduire les coûts, la marque aux losanges s'est appuyée sur des ingénieurs chinois et 45% des pièces ont été conçues en Chine. Dans la bataille du véhicule électrique, le plus fort reste sans doute encore à venir. Un sujet émerge de l'ombre. Si les automobilistes ne paient plus de taxes sur les carburants, alors comment les États compenseront-ils? Au Royaume-Uni, la presse vient de découvrir les plans du gouvernement pour les conducteurs de voitures électriques. Eh ben, une taxe au kilomètre.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est samedi, c'est donc économie. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. L'équipe vous salue. Valentin Pérez, Céline Ilan, Cécile Perrin, Maxime Goudard qui a signé les mix et puis Achille Aknin en face de moi à la console. Ce samedi, zoom sur ce qu'on pourrait appeler une méga tendance. C'est la vague de construction de data centers. Ils sont inscrits dans notre paysage et avec le développement de l'intelligence artificielle, ça va s'accélérer. Notre invité, c'est un géant de ces centres de données. Fabrice Cocchio, le président de Digital Realty France, interview vers 9h40. Et comment ça se passe sur le terrain, entre les besoins des entreprises et puis les inquiétudes des riverains? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Madame Vioboulot n'a que l'embarras du choix parmi toutes vos pertinentes interrogations sur le monde du travail. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce samedi, Sandrine, vous avez choisi une question délicate.
Oui, que faire quand un collègue va mal et qu'il ne veut surtout pas en parler à la direction? Faut-il respecter sa décision? C'est la question de Karine et j'y réponds tout à l'heure.
Ouais, que faire? On se retrouve juste avant 10h pour vous nous donner la bonne réponse. Mais tout de suite, l'actualité de la semaine, c'est le branle-bas, le combat face à l'entreprise chinoise Shein. On en parle avec Anne-Sophie Le Chevalier de Libération. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Marc Vigneault de L'Opinion. Hello Marc.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Alors d'abord, il y a eu l'indignation du passage de la vente en ligne au corner bien physique dans un grand magasin parisien. Ensuite, il y a eu la découverte de substituts sexuels à l'effigie d'enfants. Puis on a aussi trouvé des armes disponibles sur le site de Shein. Et alors voilà, on est en boule de neige. On a eu la procédure de suspension, la procédure judiciaire, la procédure européenne, le gouvernement qui refuse de rencontrer le patron, Monsieur Tang. Et puis, il y a les consommateurs, ceux qui veulent acheter notamment des vêtements à pas cher. Alors jusqu'où doit-on se protéger du phénomène Shein? C'est notre débat.
Tu sais, moi j'ai une formule toute faite, c'est achète chinois, achète trois fois.
Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie.
Quand vous achetez des produits qui sont pas de grande qualité, il y a pas de secret. C'est fabriqué très rapidement avec souvent du polyester. Je vous rappelle que tous les produits Chine qui arrivent en colis à moins de 150 €, ça paye pas de TVA. C'est la double peine. Ça détruit des emplois, mais en plus ça participe pas à l'économie française.
Ce qui me surprend dans ce débat, c'est que on oublie que Chine, c'est quand même une marque qui est devenue la cinquième marque préférée des Français.
Frédéric Merlin, président de la Société des grands magasins et propriétaire du BHV.
C'est 25 millions de clients en France. Et on peut leur faire tous les reproches sur l'enjeu de l'éthique, la condition de fabrication, Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est des Français qui, pour certains, n'ont pas le choix d'aller acheter ailleurs.
On a beau être contre le capitalisme, mais bon, sans le capitalisme, on est quoi ? On est à poil ? On va pas rester à poil.
De toute façon, les produits chinois, il y en a partout en Europe depuis des millénaires. Nous avons tous un téléphone chinois dans la poche, donc...
On parle beaucoup de Chine, mais en fait, il faut parler de toutes les multinationales.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Qui produisent dans des pays à bas coût avec des conditions sociales et environnementales catastrophiques. Et donc, pour ça, on a besoin de les responsabiliser.
J'ai découvert sur la plateforme Chine, après les poupées pédopornographiques, la vente d'armes, des armes de catégorie A.
Antoine Vermorel-Marquez. Député Les Républicains.
Et donc c'est pour ça que ce matin j'ai fait un signalement à la procureure de la République de Paris.
J'ai adressé en parallèle un courrier.
Anne Le Hénan, ministre déléguée chargée du numérique.
Où on demande à la présidence de la Commission européenne, regardez ce qui s'est passé en France, attention, avertissez, sensibilisez tous les 26 autres pays européens.
Je salue la décision du gouvernement.
Dominique Schœlcher, PDG de Coopérative U.
D'aller vers une suspension des activités de Chine en France en ligne parce qu'on cumulait les non-conformités. Nous, on dit oui à la concurrence, mais loyal et à armes égales.
Anne-Sophie Le Chevalier, je me tourne vers vous après cet emballement, on l'a entendu, dans le Zap, l'emballement de la semaine. Chine a conquis depuis des années le marché français. Est-ce que vous comprenez ce réveil général ?
Alors en tout cas, on peut essayer de l'expliquer par une conjonction d'éléments en même temps. Donc l'implantation au BHV, vous l'avez dit, qui suit quand même un mouvement de grève dans ce magasin contre l'arrivée de cette marque. Une accumulation d'amendes, au total on en est depuis quelques mois à 191 millions d'euros contre Chine pour non-respect de la législation sur les cookies numériques, fausse promotion, information trompeuse et non-déclaration de microfibres plastiques. Donc vous l'avez dit, ça ajoute à ça la découverte de ventes d'objets à caractère pédopornographique et d'armes de catégorie A. La publication la semaine dernière d'une grande enquête de l'UFC Que Choisir, qui a choisi de tester 162 articles vendus sur Chine et sur son concurrent Temu. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Chargeurs USB, jouets et bijoux. 57% des articles présentent un risque pour les consommateurs. 70% sont non conformes aux réglementations européennes. Vous ajoutez à ça la croissance exponentielle de la marque. Certes, elle est présente depuis plusieurs années. Ceci dit, là, Bloomberg révèle cette semaine que la marque a déclaré à ses investisseurs qu'elle devrait doubler ses profits cette année à 2 milliards de dollars. Donc, c'est une croissance qui s'explique par un rush aux États-Unis avant le durcissement de la politique commerciale de Trump et aussi par la conquête encore plus forte du marché européen avec un report de la stratégie vers l'Europe puisque le marché européen se fermait. À ça, c'est quand même sur fond d'hécatombe dans les marques de prêt-à-porter. Enfin, c'est quasiment toutes les semaines qu'on a des liquidations, des redressements judiciaires. Mmh. En tout, sur ces 10 dernières années, on évalue à 50 000 emplois perdus dans les enseignes.
Est-ce qu'on peut dire, Marc Vigneault, que le succès de Chine provoque l'hécatombe dans le textile français ou c'est pas aussi simple que ça ?
Non, je pense que c'est clairement pas aussi simple que ça. Ça fait des années que les enseignes type Camailleux, Lal, Pinky ont des problèmes bien avant l'arrivée de Chine en France. En fait, ils n'ont pas été capables de prendre le tournant de l'arrivée de la fast fashion avec Zara et H&M d'abord. Puis après, il y a eu des marques comme Primark qui ont cassé les prix avec de la qualité qui n'était pas forcément au rendez-vous. Il y a eu les discounters du prêt-à-porter, les sites qui font des remises toute l'année sur les marques de vêtements. Je ne sais pas si on peut citer les marques ou pas, mais...
Bah, on en cite plein depuis 5 voilà, minutes, allez-y.
Voilà,
hein.
VP, par exemple.
L'ancien vente privée.
Il y a eu la mode de la seconde main avec qui fait tourner les collections, mais qui permet d'acheter de la seconde main et donc de faire tourner. Enfin bref, ces enseignes étaient déjà en difficulté. L'industrie textile est en difficulté depuis très longtemps. Donc non, on ne peut pas attribuer à Chine le problème. C'est vrai que le fait que cette enseigne arrive en plus et de quelques autres renforce les problèmes. Après, évidemment, il y a aussi la volonté du consommateur. Si aujourd'hui le consommateur, on lui propose d'une manière ou d'une autre des produits moins chers, c'est difficile d'aller leur expliquer qu'il ne faut pas les acheter. En tout cas, ils votent avec leurs pieds en quelque sorte. On nous a beaucoup dit, on a une génération qui est très impliquée sur l'environnement, etc. Mais en fait, quand on regarde, Les gens, ils préfèrent acheter 3 jeans dans la semaine, les mettre 2 fois plutôt que d'avoir 3 jeans dans l'année et qu'ils mettront toute l'année. Bon, caricaturant un peu. Donc, non, c'est pas... Et puis, à mon avis, il faut quand même distinguer le problème de ces petits colis avec tous les produits non conformes liés à la marketplace. Parce que dans
alors, il faut expliquer ce que c'est une marketplace.
Il y a une marketplace avec des vendeurs indépendants. Et en fait, malheureusement, dans le droit européen, ces grandes plateformes type Shein, ils ne sont pas totalement responsables de la marketplace. C'est-à-dire qu'en gros, si on leur signale un problème, ils doivent réagir très très vite. C'est ce qui s'est passé avec l'injonction de la DGCCRF, qui d'ailleurs a fait fermer, a tout de suite, Shein a annoncé qu'ils fermaient leur plateforme parce qu'ils n'étaient pas capables de contrôler cette marketplace avec tous ces vendeurs indépendants. Et puis le cœur du business, si j'ose dire, de Shein, qui est un magasin de prêt-à-porter de piètre qualité avec des pièces importées directement de Shein par avion et qui échappe actuellement aux droits de douane sur les textiles.
Il n'y a pas que Shein, Anne-Sophie Le Chevalier. En fait, là, on est en train de se focaliser, mais vous avez cité, il y a d'autres marques chinoises. Il y a Temu, Alibaba,
et AliExpress.
Ouais. Et puis, il y a quelques années, est-ce qu'on n'avait pas le même débat sur Amazon ?
Oui, alors déjà, il y a peut-être quand même quelque chose à signaler par rapport aux ventes d'objets à caractère pédopornographique. Le même cas s'est produit en 2020 en France, mais c'était Amazon et la Marketplace, cette fameuse revendeur tiers, qui avait mis en vente ce genre d'objet. Et là, il y a eu donc une action judiciaire, l'acheteur a été condamné. En revanche, pas l'entreprise, pas le géant américain, parce que le procureur de Dieppe, qui était cité dans la presse locale à l'époque, expliquait que l'entreprise n'avait pas été poursuivie faute d'éléments intentionnels. Donc, c'est quand même une vraie question qui se pose sur la responsabilité.
Mais la loi là-dessus, ce que je disais, n'est pas extrêmement claire. Le droit européen prévoit que la plateforme n'est pas directement responsable pour ce qui se passe chez ses marchands indépendants. Elle n'est redevable que si on lui signale. Là, elle doit agir très promptement. Mais en gros, c'est un peu comme si vous disiez « je suis un centre commercial, je suis responsable pour tout ce qui se vend dans mes boutiques ». Et en fait, ce n'est pas le cas. Et voilà,
Mais en fait, les patrons, par exemple, du textile français, les marchands français disent, de toute façon, au-delà de ces produits sur la marketplace, il y a un problème avec les vêtements Shein et
avec
les conditions.
Avec l'ultra fast fashion.
Oui,
en fait,
voilà, et les conditions de production.
C'est tout le marché de l'ultra fast fashion. Donc, faut voir ce que Shein ne vend rien en Shein. Ils font fabriquer dans des temps très courts, auprès de 7000 sous-traitants, des toutes petites séries. Ils repèrent les tendances en développant l'IA et leurs algorithmes et ils font fabriquer des petites séries qui mettent sur le marché et qui vendent. Et les conditions de travail, ça, on a des reportages et des reportages qui montrent que les conditions de travail sont catastrophiques et l'impact environnemental aussi.
Alors, juste pour ajouter un tout petit chiffre, Temu, Shein et Amazon, c'est 29% des ventes de vêtements en ligne au premier trimestre 2025 et c'est 7% de la consommation totale d'habillement.
Donc c'est quand même un phénomène économique. Ça nous amène évidemment à la question, c'est que faut-il faire ? Alors maintenant qu'on a tous ouvert les yeux, quelle solution ? Est-ce qu'il faut interdire ? Est-ce qu'il faut taxer ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi des perdants dans ce genre de décision ? Marc Vigneault, Marc ?
Alors, je crois qu'il faut agir au niveau européen, hein, parce que si on agit qu'au niveau français, évidemment, ça passera par d'autres plateformes européennes et ça sera réimporté en France et en fait, on n'aura pas réglé le problème. Alors, la Commission européenne a commencé à prendre conscience du problème depuis au moins février. Elle a annoncé que l'exemption de taxes sur les petits colis à 150 € allait être... on allait y mettre un terme. Le problème, c'est évidemment la lenteur européenne, parce que pour l'instant, c'était annoncé jusqu'à... pour 2028, mais ils ont bien compris qu'il y avait un enjeu là. Ils ont lancé des enquêtes, des contrôles renforcés. Ils veulent regarder, intensifier les contrôles sur ces plateformes controversées. Donc la France pousse évidemment dans ce sens et veut jouer sur les constats qui ont été faits ces derniers temps pour accélérer le calendrier et pour amener à durcir. En fait, je crois que c'est le thème plus général de la fin de la naïveté européenne. Il faut s'adapter aux nouvelles pratiques et après définir quels sont les standards qu'on veut ou pas. Là, c'est très compliqué, mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité du producteur. On peut essayer, pour les vêtements eux-mêmes, d'imposer des normes de durabilité qui soient un peu meilleures.
Oui, mais on voit bien que c'est lent, vous l'avez dit, c'est lent, c'est difficile.
Ah bah oui, c'est lent, c'est difficile, mais on veut appliquer des droits de douane de 8 à 12% sur l'habillement des produits en provenance de Chine.
Déjà aussi commencer par faire respecter les règles, puisqu'on voit que dès qu'on se met à ouvrir des colis, bah, c'est catastrophique sur ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Il y a eu la grande opération coup de poing, comme ils ont appelé ça jeudi, où les ministres sont allés à Roissy, qui est une énorme plateforme d'arrivée de ces petits colis, et puis ils ont ouvert. Et ils
on voit bien que ça va leur prendre un mois. Ils ont dit un mois. Ça dit quelque chose de nos forces de contrôle, quand même.
Et les effectifs des douanes, j'ai regardé. Donc, en fait, ils ont quand même beaucoup baissé ces dernières années. On est passé à 22 000 dans les années 80, à 16 500. En 2023. La preuve, s'il en fallait, que dans ces temps de coupes budgétaires, les services publics servent à quelque chose.
Ben c'est pour ça que la France veut instaurer une taxe sur les petits colis dans un premier temps de 2 euros, justement pour financer les tarifs douaniers. L'Union européenne soutient cette mesure. Elle a dit qu'elle essaierait d'abord, dans un premier temps, de mettre 2 euros sur ces petits colis, justement pour
financer
faire
les
remonter,
contrôles.
Voilà,
contrôles, ouais,
pour faire remonter pour faire remonter les contrôles et les équipes chargées de ces contrôles.
La question, c'est est-ce que le rendement espéré de cette taxe sur les petits colis arrivera bien, puisqu'on voit partout que la question du contournement de cette taxe, parce qu'il suffirait d'aller dans les pays limitrophes et d'ensuite acheminer vers,
enfin,
vers
si
le
pays.
Enfin,
si elle s'applique sur toute l'UE, c'est mieux.
Oui, mais là, pour l'instant,
ça démarre
par la
France.
Pas
le cas, c'est pas avant.
Oui, oui, mais la Commission européenne, si, là, maintenant, ils soutiennent et ça va aller, enfin, ça devrait aller relativement vite. Alors, est-ce que ça sera à partir de septembre ?
Après, à Bercy, parle plutôt de coalition d'États qui pourrait commencer à le mettre en place, mais on voit bien, on a beaucoup parlé des risques de contournement, de fuite. Souvenez-vous, pour la taxe Zucman, là, tout le monde disait, ah bah, ils vont tous partir, mais là, on n'a pas l'équivalent de l'exit tax pour essayer de les retenir. Donc, ça, c'est vraiment un risque d'inefficacité de cette taxe. Donc, c'est évident que l'échelle européenne.
Mais donc, vous pensez que c'est quand même une bonne première. J'entends tous les. Non, vous pensez que c'est une bonne première marche, Anne-Sophie ?
La taxe.
Bah, ça risque, je vois, grimacer.
D'être vraiment inefficace. Quoi.
Il faut qu'il y ait une taxe, d'abord, au niveau européen. Ensuite, il faut qu'on change la législation, qu'on arrête les exemptions sur ces petits colis de moins de 150 euros. Après, la Commission européenne dit qu'elle développe des outils d'intelligence artificielle pour essayer de mieux scanner ces marketplaces et de s'en prendre à ces objets illicites. On voit qu'il y a de plus en plus, par exemple, d'accidents domestiques sur des gens qui achètent, par exemple, des grille-pains et qui se retrouvent avec un incendie chez eux. Ouais. Donc ça, effectivement, il va falloir utiliser plein de nouveaux outils pour essayer de mieux contrôler ces produits qui sont totalement illégaux.
Et puis, il faut aussi s'attaquer aux producteurs eux-mêmes. Enfin, et là, c'est le rôle des pouvoirs publics. Enfin, je veux dire, les spasmes d'indignation comme on connaît maintenant, on les a connus déjà plusieurs fois dans le passé. Souvenez-vous de l'effondrement du Rana Plaza. Là, tout le monde redécouvrait les conditions terribles de travail dans les usines textiles. 10 ans après, il y a eu un accord international qui a été signé entre les organisations syndicales internationales et différentes marques. Mais là, je reprenais ce que disait Amnesty International il y a 2 ans. Et ben, sur le terrain, au Bangladesh, dans les usines, les conditions de travail n'ont pas.
Et en même temps, il faut prendre en compte le pouvoir d'achat du consommateur.
Oui, on n'a pas beaucoup parlé
et
des consommateurs.
Le problème, en fait, fondamental, c'est le modèle d'économie qu'on est en train de développer, où on a plutôt des petits salaires, on a du mal à avoir la montée en gamme, on a de moins en moins d'emplois industriels. Si on avait une économie qui allait mieux, bah forcément, on aurait moins d'achats de produits de piètre qualité.
Marc Vigneault et Anne-Sophie Le Chevalier, ils ont fait le débat.
La déindustrialisation
L'économie comme elle tourne ailleurs et comme on essaie de préserver en même temps le développement et l'écologie. Ce matin, nous partons à Berlin.
Heute ist ein Feiertag für die Bäume in Berlin, für die Stadtnatur, für Klimaschutz, aber vor allem auch für die Demokratie. Was wir hingekriegt haben, ist einmalig, um Berlin fit für die Zukunft zu machen.
Il s'appelle Heinrich Strössenreiter, c'est un Berlinois qui se réjouit de voir aboutir son initiative citoyenne pour que sa ville devienne beaucoup plus verte. Aujourd'hui, dit-il, c'est un jour de fête pour la nature, pour la biodiversité, pour la protection du climat, surtout pour la démocratie. Ce que nous avons accompli est unique pour préparer Berlin pour l'avenir. Et vous êtes à Berlin. Guten Morgen, Sébastien Baer.
Guten Morgen, Alexandra. Bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Allemagne. Alors, chez vous, Berlin veut être, dans 15 ans, la capitale européenne la plus verte. La ville est donc prête à planter 700 000 arbres avec un budget quand même conséquent. 3 milliards d'euros, Sébastien ?
Ah oui, des tilleuls, des marronniers, des platanes, des érables, un arbre tous les 15 mètres en moyenne dans les rues de la capitale. Voilà ce que prévoit ce texte, il faut le dire, adopté très facilement par les députés de Berlin. À terme, en 2040, il y aura plus d'un million d'arbres dans la capitale, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Alors l'homme que l'on vient d'entendre, Heinrich Strassenreuther, qui est à l'origine du projet, rêve d'un Berlin plus vert, avec des arbres en plus grand nombre pour lutter contre la chaleur et l'impact du réchauffement climatique. On en recense déjà dans la capitale 440 000, ce n'est pas rien, mais presque un sur deux est malade. Et l'année dernière, les espaces verts ont dû, par exemple, abattre deux fois plus d'arbres qu'ils n'en ont planté. La facture de ce projet inédit, vous l'avez dit, devrait dépasser les 3 milliards d'euros. Comment la financer alors que les caisses sont complètement vides? Les députés ont trouvé la parade. Ils vont puiser dans le fonds spécial de 500 milliards d'euros mis en place par le gouvernement de Friedrich Merz pour moderniser les infrastructures. Berlin devrait utiliser 2 des 5 milliards qui lui seront alloués pour procéder à ces plantations. Mais n'y avait-il pas d'autres préoccupations, demande un éditorialiste. La presse, très critique, fait la liste des projets qui auraient dû être prioritaires. La rénovation des écoles et des hôpitaux, la construction de logements. Les universités manquent aussi de moyens et la ville vient de réduire de 130 millions d'euros les subventions versées au monde de la culture. Heinrich Strassenreuther, lui, défend son projet. Il rappelle que la productivité chute en période de canicule et que les hôpitaux et les patients souffriront beaucoup plus de la chaleur dans 30 ans si la ville ne devient pas plus verte.
Sébastien Baer d'Ankochen avec nous de Berlin. (Musique) 9h34 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, le leader mondial des data centers sera notre invité. C'est l'entreprise Digital Realty. Son président en France, Fabrice Coquio, sera dans ce studio. Alors des questions sur la vague de centres de données qui s'apprête à déferler sur le territoire pour stocker des données, pour héberger aussi les supercalculateurs de l'intelligence artificielle. Ces data centers, on en compte plus de 5400 aux États-Unis, 520 en Allemagne et au Royaume-Uni et déjà plus de 320 chez nous. Et des milliards d'investissements ont déjà été annoncés cette année pour l'avenir. Mais les projets, surtout les plus grands, créent aussi des défis, voire des tensions localement au sujet du foncier, de l'eau, de l'électricité. Vous allez l'entendre. Mais pour commencer, il faut déjà aller regarder à quoi tout ça ressemble. Alors ce matin, notre reporter nous emmène à Dijon, visiter le data center de l'entreprise française Detix, dans lequel sont hébergées les données de plusieurs dizaines d'entreprises. Anna Elverzo et son micro suivent le directeur général, Maxime Rouillet, dans ce centre très sécurisé.
Je vous laisse badger ici.
Oui. Je suis dans un sas de sécurité. Hop. Et voilà la deuxième porte. Une troisième porte sécurisée. Il y a combien de mètres carrés ici ?
Ici, c'est un bâtiment de 700 mètres carrés. Et on a une capacité d'hébergement de 100 baies. Disons que ça permet de faire tourner des centaines de serveurs, des centaines de bases de données.
Là, je vous suis.
Donc du coup, par exemple, ici, c'est une partie où on a l'extinction incendie.
Donc là, ce sont des bonbonnes
d'azote qui viennent étouffer le feu.
Au cas où.
Au cas où, tout à fait.
Une autre salle.
Là, ici, c'est la partie refroidissement. Un site comme celui-ci, ça consomme à pleine charge un peu plus de 4 gigawattheures annuelles. Pour vous donner une estimation, ça représente la consommation d'un gros quartier d'une dizaine de milliers de personnes à l'année, par exemple.
Et là, qu'est-ce que c'est le gros cube bleu qu'il y a derrière nous ?
C'est les groupes électrogènes. Il nous permet d'assurer une distribution d'énergie, même en cas de coupure de courant extérieur.
Par exemple, s'il arrivait ce qui s'est passé en Espagne au mois d'avril dernier, c'est-à-dire une coupure généralisée dans tout le pays, vous seriez en capacité d'y faire face pendant combien de temps ?
Un blackout, ça peut tout à fait arriver. Effectivement, nous, par exemple, ici, on peut tenir plus de 3 jours en totale autonomie sur ce site-là. Aujourd'hui, on fournit un niveau de service qui est complètement comparable aux grands acteurs internationaux qui sont situés sur les très grandes métropoles comme Paris, Madrid, Marseille. Et sauf qu'en fait, nous, aujourd'hui, on l'offre localement pour des acteurs locaux, ce qui permet par exemple à Urgo de trouver ici un hébergement avec un haut niveau de disponibilité et de fiabilité, tout en étant à quelques mètres, quelques kilomètres de ses équipes techniques.
Je viens de rentrer dans une pièce qui fait énormément de bruit. C'est-à-dire, ce sont les ordinateurs qui sont cachés derrière les grilles, là, des grilles blanches, qui font ce son. C'est ça, Sylvain ?
C'est ça.
Sylvain Beaufils.
Beaufils. Donc, Sylvain Beaufils, responsable réseau et infrastructure chez Urgo.
on ouvre des portes coulissantes blanches et grises, et là on rentre dans la salle véritablement des machines. On voit, ce sont comme des armoires métalliques qui sont alignées les unes à côté des autres, et derrière ces armoires il y a les ordinateurs.
C'est ça, avec aussi des serveurs de production où on a toute la partie stockage des données. C'est pas normal que ça clignote orange.
Ah, ça veut dire quoi?
Je pense qu'il doit y avoir une alimentation derrière qui doit être mal branchée ou mal...
Ah oui, parce qu'il y a des petits clignotants verts ou oranges, voilà, sur le côté.
Quand tout est vert, c'est tout est bon.
D'accord.
Purgo, aujourd'hui, c'est 4000 personnes. C'est 900 millions de chiffre d'affaires dans le monde. Et c'est un groupe familial français très attaché à ses racines. Il y a à peu près toutes les données d'Urgo aujourd'hui dans les baies qu'on a pu voir.
C'est-à-dire c'est les armoires, ouais, quoi.
En gros, c'est des baies de disques où il y a plein de disques dedans. Tout est stocké là. Toute la relation qu'on peut avoir avec les clients, avec le milieu médical.
Pour quelles raisons c'était important pour Urgo d'avoir ce data center?
Pour sécuriser toute la donnée. On est sur deux salles aujourd'hui complètement répliquées. En cas de problème, on peut perdre une salle complète. En fait, Urgo ne s'arrêtera pas. Elle ne perdra pas de données.
Rungis, Cambrai, Châteauroux, Le Bourget ou encore Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône, les projets de construction de data centers essaiment partout en France, avec parfois des centres massifs qui pourraient dépasser les 50 hectares en surface et 1 gigawatt de puissance. Une activité énergivore à laquelle s'ajoutent des nuisances sonores, visuelles, environnementales, qui provoquent donc des contestations citoyennes. Exemple, dans l'Essonne, au sud de Paris, à Wissou. Là, le géant Amazon a fait construire un data center en 2020 et travaille aujourd'hui à une extension.
Alors, on se trouve maintenant en voiture. Et là, je me trouve avec Philippe.
Oui, bonjour.
Qui est en train de conduire, alors c'est pas évident. Et vous, Jean-Luc ?
Jean-Luc Touly, conseiller municipal, comme Philippe Defruyte, sur Wissou depuis 2020.
Alors, là, sur notre gauche, vous avez l'église, vous avez le centre, vous avez la mairie. On est vraiment dans l'hypercentre de Wissou. Et vous allez voir que le data center, il est là, collé aux premières maisons. Et juste en face, vous avez l'accueil collectif des mineurs, qui accueille des enfants de 3 à 7, 8 ans. Donc, là, vous voyez les maisons.
Donc là,
c'est... Immédiatement derrière la maison, la partie verte, c'est déjà le data center.
Ah d'accord, c'est l'espèce d'entrepôt derrière, vert.
Voilà. Et tout le long maintenant, sur 400 mètres... Vous avez le bâtiment du data center et de l'autre côté, vous avez le parc Château-Gaillard avec les équipements sportifs, les tennis, la pétanque, le parc canin.
La surface totale fait 53 000 mètres carrés.
À quoi va ressembler l'extension de ce data center ?
L'extension, ce sont les bâtiments spécifiques pour les générateurs et les moteurs diesel associés. Et pour évacuer les fumées des moteurs diesel... Il y aura des cheminées de 18 ou 19 mètres de haut. Les gaz qui en sortent sont pas à respirer. Pour une partie au moins, il n'y aura aucun filtrage. C'est d'autant plus agaçant qu'on est sur l'une des entrées de la ville et que dans l'axe, vous avez l'église. Donc quand vous rentrerez dans Wissou, au lieu de voir cette grande allée avec des arbres et au bout l'église classée du XIIe siècle, vous verrez les cheminées du data center. Ils concentrent tous les défauts. Ils s'installent à ras des habitations. Il s'installe à un endroit où il n'a pas pour l'instant la capacité des lignes électriques pour l'alimenter. Donc il va falloir tirer deux lignes de 225 000 volts à travers la commune pour l'alimenter. Et il est à proximité immédiate d'équipements sociaux qui bénéficieront donc à plein de la dispersion de la chaleur, du bruit associé, puisque pour disperser la chaleur dans l'air, il faudra de gros ventilateurs qui feront un bruit pas possible. Et dans le cas des data centers, il y a en effet des lois qui prévoient les tâches choses très bien, entre autres sur la récupération de la chaleur, mais les décrets d'application qui précisent les conditions ne sont jamais sortis. Et donc ce type d'acteur profite de ce trou dans la raquette pour aller vite et s'installer.
Merci beaucoup.
L'association de Philippe et Jean-Luc, Wissou notre ville, a porté le dossier devant le tribunal administratif de Versailles, qui l'a débouté. Ils ont fait appel et espèrent toujours faire déplacer ce data center et empêcher l'extension de voir le jour. Pour autant, la tendance est à la multiplication des centres de données sur le territoire français, à l'image de l'importance que prend le numérique dans nos vies. Et l'intelligence artificielle va encore accélérer le mouvement. Quentin Perrier est expert au sein du cabinet de conseil Deloitte. Il a coécrit plusieurs rapports sur le sujet.
Très clairement, on voit une explosion des usages
liés à l'IA notamment, qui utilisent beaucoup de données derrière, les modèles de langage, ou tout ce qui va être génération d'images et de vidéos. Ça, c'est ce qui est très consommateur de puissance de calcul. Et la puissance de calcul, c'est exactement les data centers, et notamment ces nouveaux data centers, parce qu'en fait, des data centers, on en a depuis longtemps. Internet est basé sur des data centers, des données, et puis de l'échange de données avec des requêtes. Ce qui est nouveau là avec l'IA, c'est qu'on a besoin de data centers extrêmement puissants pour entraîner ces modèles. C'est ce qu'on appelle les hyperscalers, qui utilisent des puces très sophistiquées, très chères aussi, et qui consomment des puissances considérables. Et donc, on peut s'attendre à ce que le nombre de data centers augmente, et d'ailleurs, on le voit déjà. En Europe, la Commission européenne a fixé l'objectif de tripler le nombre de data centers à l'horizon 2030. Donc on voit que ça augmente et ça augmente même très vite.
Google a annoncé qu'il envisageait de construire un data center dans l'espace. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble plausible ?
Cette annonce, elle est plus symbolique pour moi. Elle montre surtout que les data centers aujourd'hui, on est dans un univers où les géants de la tech mettent beaucoup d'argent pour aller très vite. On parle de trillions bientôt qui sont investis, donc 1000 milliards. Et ça montre aussi les tensions qu'il peut y avoir sur l'approvisionnement électrique. Je pense que c'est ça l'enjeu qui est derrière. Mais après, un data center sur la Lune, bon, il faut l'envoyer là-haut, ça coûte très cher. Ensuite, les data centers, on change les puces régulièrement. Donc voilà, si c'est sur l'espace, c'est sans doute moins facile à faire. Ça semble économiquement compliqué, on va dire.
Data center, croissance et résistance. C'était le reportage d'Anna Elverzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et nous continuons la réflexion avec un géant des data centers. C'est l'entreprise américaine Digital Realty. Son président en France est dans ce studio. Bonjour et bienvenue Fabrice Coquio.
Bonjour.
Alors, on ne vous connaît pas, mais on connaît vos clients. Qui sont-ils ?
Tout le monde. Toutes les infrastructures de nos vies digitales, en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agent des services publics, tournent dans les data centers et depuis fort longtemps. Moi, j'ai la chance de faire ça depuis 26 ans. On est numéro 1 mondial, comme vous l'avez dit, numéro 1 en Europe, numéro 1 en France, avec 17 data centers à la fois sur Paris et puis sur Marseille, les deux grands hubs français. Et ça, nos clients, c'est aussi bien des opérateurs télécoms que des acteurs de streaming, que du social media, que des services publics ou qu'une entreprise de toute taille, française ou étrangère.
Et les plus grands noms, Google, si je vous dis Google, si je vous dis...
Nous travaillons avec tous les grands acteurs de la tech, mondiale, française, européenne, américaine, avec des acteurs français, bien sûr, Orange, Total, Groupama, des tas d'acteurs, et puis, par exemple, même le port de Marseille.
Alors justement, vous avez dit, les data centers, si on regarde la carte, il y a une énorme concentration en région parisienne, une très forte concentration dans la région marseillaise, et puis tout le reste, alors là, nous on est allé à Dijon, mais c'est un plus petit modèle, il n'y a pas grand-chose dans d'autres territoires, on va dire. Pourquoi cette concentration, Fabrice ?
Il y a une logique fondamentale qui vient des télécoms. La donnée, il faut d'abord la créer. Ensuite, ça, on peut le faire à distance ou dans un data center. Il faut la stocker, la processer, la manufacturer même, désormais. Et puis, il faut surtout l'échanger. C'est au moment de l'échange que se réalise la création de valeur, que ça soit pour communiquer à travers un email, travailler sur son compte bancaire ou tout simplement envoyer une donnée logicielle pour construire un avion ou autre chose. Et ça, pour échanger de la donnée, il ne faut pas l'oublier. Il y a trois autres infrastructures qui tournent autour du data center, qu'on ne voit pas. Les câbles sous-marins d'un côté, les câbles sous-marins télécoms qui interconnectent les pays, les continents. De l'autre côté, les câbles terrestres et de l'autre dimension, la troisième dimension, de plus en plus désormais, les liaisons satellitaires. Et ces trois infrastructures qu'on ne voit pas, des faisceaux laser, des câbles enterrés, des câbles sous l'eau, se connectent sur des data center hubs dans des points de concentration que sont généralement les capitales économiques, donc Madrid, Londres, Francfort, Paris, New York et d'autres. Et puis surtout, en France, on a cette particularité. On est le seul pays européen à avoir deux hubs d'envergure mondiale, mais de surcroît dans le top 10 mondial. Paris, c'est le 5e hub mondial, ça se mesure en nombre de terabits échangés par seconde, et Marseille, le 6e depuis fin 2024.
Parce que tous les tuyaux, il y a des énormes tuyaux de données qui arrivent depuis l'Asie jusqu'à Marseille,
mais
c'est
oui,
ça ?
Dans la dimension de l'échange, il faut échanger avec l'Afrique, le Moyen-Orient, le sous-continent indien, jusqu'à l'Asie, et donc vous avez aujourd'hui 5 milliards et demi de personnes, ou d'entreprises à travers elles, ou d'usagers connectés à Marseille, pour s'interconnecter derrière avec le cœur européen qui est constitué de Paris, Francfort, Londres et Amsterdam.
Alors la France cherche à attirer les investisseurs comme votre entreprise. On se souvient des data centers mis à l'honneur avec le sommet pour l'action pour l'intelligence artificielle. Ça, c'était en février. Puis il y a eu Choose France en mai. Vous-même, vous avez confirmé des investissements pour plus de 2 milliards d'euros sur deux sites, si mes infos sont bonnes.
Là, on a déjà commencé effectivement les travaux pour plusieurs 1 milliard à Marseille, plus de 2 milliards à Paris. Et en fait, on s'est engagé auprès du président de la République à réaliser 5,2 milliards d'investissements en France, sur Paris et Marseille, avant 2030.
Alors, si l'instabilité politique continue, est-ce que ça peut remettre en question vos investissements?
Non, parce qu'on a déjà commencé à mettre des coups de pioche.
Ok. Ça coûte cher, un data center?
Ça coûte très cher. C'est une industrie très capitalistique. Et puis, il faut peut-être faire, pour les auditeurs, une différence. Vous avez deux niveaux dans le data center. Vous avez soit les data centers en interne, propre, propriétaire, où l'opérateur va construire son data center, mettre ses machines informatiques et télécoms, le gérer lui-même. Et puis, vous avez les acteurs de colocation, c'est ce que fait le groupe Digital Realty. Mmh. C'est-à-dire que nous construisons l'usine digitale dans laquelle nos clients amènent leurs machines informatiques et télécoms. Et quand nous dépensons 1 euro pour faire un data center, nos clients mettent 4 euros de concentration de hardware, de software, dans nos bâtiments. Alors, imaginez, quand à Duny, au nord de Paris, on fait un projet en ce moment qui sortira dans 2 ans de 2 milliards d'investissements, ça veut dire qu'il y aura 10 milliards de concentration informatique data center à cet endroit-là.
La France a de l'électricité. On a entendu dans le reportage le formidable appétit d'électricité. Les critiques disent des ogres énergétiques, des data centers. La France produit de l'électricité. EDF a même une surproduction. En revanche, j'entends dans votre filière des alertes sur la possibilité de raccorder les data centers au réseau, en fait.
Oui, tous les pays européens sont gérés avec un monopole de distribution électrique, que ça soit de la haute tension, monsieur RTE en France, ou que ça soit de la moyenne tension, monsieur Enedis. Et effectivement, on n'est pas encore rentré dans des systèmes d'autoconsommation, loin de là, surtout pour les puissances que nous appelons, qui sont en centaines de mégawatts. Donc, vous voyez, 200 mégawatts à Duny, c'est un cinquième de tranche nucléaire quand même. Il y a des besoins de raccordement considérables. La France a beaucoup de chance, au moins par rapport à nos voisins européens. Pour les deux décennies qui viennent, on n'a pas vraiment de problème de production d'électrons. La preuve, on est redevenu exportateur net, très massivement d'ailleurs, d'électricité. En revanche, ça peut coincer un petit peu, c'est sur le réseau de distribution. C'est-à-dire qu'il faut amener normalement l'électricité au data center, donc tirer des câbles électriques, mais surtout qu'il y ait des stations de transformation électrique de RTE ou de Enedis en fonction des puissances appelées, qui soient disponibles. Et là, on constate que le temps de développement des réseaux, encore une fois, pas qu'en France, partout, est un petit peu différent du temps de développement des data centers. Donc on a un petit effet de ciseau qui pose effectivement un problème, voire même une course au raccordement électrique.
Est-ce que vous pensez aux petits réacteurs modulaires, les SMR, aux États-Unis, apparemment, ils sont très regardés. Est-ce que ça vous intéresse, ça?
Alors, c'est une solution. Je ne suis pas, à titre personnel, persuadé qu'on aura une acceptabilité sociale et politique à mettre des petits cœurs nucléaires pour alimenter des data centers de proximité, encore une fois, dans des zones très denses. On peut espérer et rêver mettre à travers tous les territoires des data centers, mais les hubs resteront les fers de lance de la concentration. D'où des problématiques, effectivement, d'aménagement globaux du territoire, de raccordement.
Alors, oui.
Et peut-être de solutions, et donc d'acceptabilité.
Alors, parlons-en. Il faut ouvrir ce dossier-là. Cette semaine, l'énergéticien Total a estimé que les data centers représenteront 7% de la demande mondiale en électricité d'ici 2050. Il y a déjà des gens qui s'angoissent que les data centers, leur appétit, freinent la transition écologique. Qu'un jour, il faille décider de débrancher une usine décarbonée pour le donner plutôt au data center. Et par exemple, le think tank de Jean-Marc Jancovici dit qu'il faudrait vous imposer un plafond de consommation électrique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je suis pas sûr du tout que la solution soit sur le plafond. Je pense qu'en revanche, effectivement, vous voyez, mon premier data center avec les équipes, il y a 25 ans, à Aubervilliers, c'était 2 mégawatts. Je vous ai cité celui de Denis, 200 mégawatts, on est sur un facteur 100. Donc, on voit bien qu'on peut effectivement faire un tout petit peu de prospective et voir que les enjeux vont très vite arriver à 400, 500 mégawatts, donc des moitiés de tranches nucléaires pour aller peut-être même au-delà. L'enjeu, dans une telle accélération, qui encore une fois n'est que la conséquence de la masse de la création de data que chacun réalise tous les jours. On ne fait pas des data centers pour se faire plaisir, on le fait pour répondre aux besoins de la digitalisation de l'économie. Et là, on voit bien qu'il va falloir travailler sur plusieurs solutions. Au niveau du syndicat professionnel France Data Center, on le fait depuis des années en essayant de convaincre les parlementaires, les gouvernements successifs ou autres des enjeux de planification. On a un petit peu de mal à se projeter des fois en France dans le long terme et pourtant on est sur une industrie de long terme, on est sur des infrastructures à 20-30 ans.
Vous dites qu'il faut planifier. Vous dites qu'il faut, ça serait une solution.
Alors il faut planifier, mais il faut aussi trouver une solution d'interaction entre guillemets avec les réseaux. Il va falloir, d'ailleurs les data centers, et c'est même EDF ou RTE le disent, peuvent devenir des éléments de stabilisation du réseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce sont des consommations extrêmement prévisibles. Contrairement à allumer son chauffage le soir électrique quand on rentre en plein hiver ou qui est donc un appel de pointe, là la consommation est prévisible, stable, quasiment tout le long de l'année et on peut effectivement à travers des mécanismes de prévision, d'ailleurs il y a des réglementations de la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie en ce sens, mais également sur des notions d'effacement potentiel pour pouvoir aider le réseau à se stabiliser.
Effacement,
quand il y a des
ça veut dire qu'on dit qu'on consomme plus, on arrête sa consommation,
on pourrait très bien
moins.
Effectivement s'effacer du réseau parce qu'on a des moyens d'autoproduction qui permettraient justement d'équilibrer si tant est qu'on le fait effectivement dans une notion de notification à l'avance et puis qu'on reste sur un principe fondamental. Il ne faut pas oublier que les data centers ont une mission qui est la continuité d'activité. Mmh. On l'a entendu avec votre reportage, Urgo doit marcher tout le temps et puis d'autres doivent marcher tout le temps.
Fabrice Coquio, ce qu'on a entendu aussi dans le reportage et toujours cette idée d'acceptabilité, ce sont les inquiétudes, pour ne pas dire les résistances des riverains. Là, on était autour d'un data center avec des cheminées de 18 mètres et puis du fuel, enfin bon voilà. Est-ce que l'acceptabilité pour vous ça devient un vrai enjeu, voire un obstacle, et qu'est-ce que vous leur dites aux riverains ?
C'est complètement légitime. Pour une raison assez simple, pourtant vous voyez, ça fait 25 ans, 26 ans que des gros data centers de colocation existent. On en a jamais autant parlé que fort récemment, et d'ailleurs ça a été mis en exergue par le gouvernement, avec, vous l'avez rappelé, le salon de l'IA ou le sommet de Choose France, en montrant le besoin fondamental de ces infrastructures essentielles. Ceci dit, je vois que on se pose finalement, en tant que citoyen, beaucoup de questions quand on ne connaît pas, comme toujours. Or, peu de gens comprennent la logique derrière de ces infrastructures. Comprennent le lien entre leurs usages personnels et ces infrastructures essentielles. Il faut donc expliquer ce que c'est.
Ouais, mais est-ce que vous allez être plus, est-ce que vous pouvez devenir, ok, il y a la consommation en eau, la consommation en électricité, est-ce que vous pouvez faire mieux ?
Alors, on peut faire beaucoup mieux, mais il faut surtout rappeler quelque chose. En Europe, on est dans un système de droit avec des réglementations, des directives européennes qui sont sans commune mesure par rapport au reste du monde, très exigeantes sur les impacts divers des data centers et des constructions. Et pas que les data centers, c'est ce qu'on appelle les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Je peux vous dire que je suis témoin de l'inflation depuis 25 ans du code de l'environnement en termes de nombre de pages et de rubriques. Et c'est extrêmement sévère. On ne fait pas n'importe quoi quand on fait un data center. En tout cas, un data center qui a été autorisé par une préfecture, contrôlé par une préfecture, audité régulièrement après la construction, bon. On est protégé. Ceci dit, il est normal que les gens s'inquiètent sur les enjeux de risques possibles, industriels, de bruit ou d'impact. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à l'intégration urbaine.
L'avenir des data centers et les défis à venir aussi. Fabrice Coquio, le président de France de Digital Realty, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Karine vous pose une question sensible qui concerne la santé mentale en entreprise. L'un de ses collègues ne va pas bien, mais il refuse catégoriquement qu'elle en parle à la direction. Alors est-ce que Karine doit respecter ce souhait ou lancer tout de même une alerte ?
Ça dépend de la qualité du management. On peut comprendre votre collègue, Karine. Faire part de ses troubles psychiques à sa hiérarchie, c'est encore s'exposer à des réactions stéréotypées. Le salarié est une petite nature, il va causer des problèmes, se mettre en arrêt, il joue la comédie. S'il refuse d'en parler, ce n'est pas à vous de le faire à sa place. Cela étant dit, Karine, vous ne pouvez pas juste ignorer la détresse de ce salarié. Ce n'est pas évident, mais c'est à vous de jauger la situation. Si vous estimez que ce collègue met sa sécurité et celle des autres en danger, là, vous n'avez pas le choix. Vous devez le signaler à la direction ou à un référent santé dans l'entreprise. Si le risque ne vous paraît pas imminent, mais tout de même sérieux, vous pouvez vous-même contacter la médecine du travail. Ce praticien a une obligation de confidentialité et il pourra convoquer votre collègue en consultation. S'il y a un représentant du personnel dans l'entreprise, c'est également le moment de lui confier votre inquiétude. Tout en respectant l'anonymat du salarié, il pourra remonter des problèmes de santé au sein d'un service.
Alors la santé mentale a été déclarée grande cause nationale en 2025. Sandrine, les entreprises se sont-elles mieux équipées pour faire face aux problèmes psychiques ?
Non, la santé mentale au travail reste très préoccupante et comme vient de le rappeler une étude très complète du think tank Terra Nova, les entreprises françaises n'ont plus le choix de l'attentisme. 6% des Européens souffrent de syndrome dépressif, c'est 11% dans l'Hexagone. Selon le dernier baromètre réalisé par Quali Social, un quart des salariés s'estiment en mauvaise santé mentale. On aurait tort de croire que c'est un mal très franco-français. L'étude rappelle que depuis 2 ans, la dépression est devenue la principale cause d'invalidité professionnelle dans le monde. Mais chez nous, la situation est aggravée par un management qui n'est pas formé à ces enjeux d'écoute, d'empathie et d'identification des signaux faibles. Les cadres sont eux-mêmes sous pression. 58% des managers disent parfois ressentir un sentiment de stress intense dans leur travail, affirme une étude de l'APEC. Ce ne sont pas les rustines individuelles à base de hotline ou de tickets psy qui sont la solution. Les experts en santé au travail le répètent, il faut évaluer les risques professionnels, agir sur la prévention qui fait tellement défaut, revoir l'organisation du travail, s'appuyer sur le dialogue social, mettre toutes les parties prenantes autour de la table pour co-construire des politiques de santé efficaces. C'est pas sorcier et ça coûte pas si cher, en tout cas beaucoup moins que l'explosion des arrêts de travail.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.